Erev Tov Lekula, merci d'être venu. On a fait une tentative, Be'ezrat Hashem, avec l'équipe du Bet HaKnesset. Et à leur initiative, nous avons décidé de commencer un séminaire, un cours, concernant le Rav Kook, qui, vous savez, pour moi, est le maître de la dernière génération. Un véritable ange descendu du ciel pour nous enseigner la Torah qui correspond à la Géoula. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde est inscrit dans un processus réglé, organisé, et l'apparition de cette Torah que nous appelons la Torah d'Eret Israël, ce n'est pas parce qu'elle est étudiée en Eretz Israël, c'est parce qu'elle traite des éléments concernant la terre d'Israël, qui elle-même s'appelle Eretz Harazim, la terre des secrets. Raz en hébreu, qui va, en se développant, donner rasé, maigre. Pourquoi ? Ça a un rapport avec les secrets, bien tout simplement parce que tout ce qui est secret est raffiné, très fin. Donc rase au pluriel, razim, veut dire aussi maigre, mais en même temps secret, finesse, raffinement. Prenez s'il vous plaît la page où je vais commencer aujourd'hui par la Hakdama. Je ne savais pas qu'il allait avoir autant de personnes, Baruch Hashem. Donc la prochaine fois, je ferai plus de photocopies et vous en aurez tous. Be'ezrat Hashem. La Hakdama est écrite par le fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, en 1949, 5709. Alors, je lis, nous allons traduire ensemble, ce n'est pas une conférence, c'est un cours. Si vous avez des questions, on essaiera de développer ça, il faut que ce soit très interactif. Mitor kitvei kodesh shel Maran Abba Harav Shalita. Donc le papa est encore vivant, et le fils, le Rav Tzvi Yehuda, dit, de tous les écrits de mon papa, que Dieu lui donne longue vie, Asher otsa'atam la'or nit'akva l'eraglé amilchama, étant donné que tous les écrits sont retardés dans leur diffusion à cause de la Première Guerre mondiale, v'sha'atidim laset la'or bekarov ve'ezrat Hashem. Je vous promets qu'ils sortiront, qu'ils seront diffusés avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, hotseti baze et orot atria. J'ai décidé de commencer par les lumières de la résurrection. Donc vous voyez qu'il y a ici une compréhension profonde que le retour d'Israël sur sa terre, du peuple d'Israël sur sa terre, s'inscrit dans un processus global de résurrection des morts, car l'exil étant appelé un grand cimetière, Ézéchiel 37, le retour en terre d'Israël, c'est la sortie littéralement des tombeaux de l'exil. Je vous cite réellement les versets du prophète, donc la parole divine, pour vous ramener sur la terre de la vie pour que vous viviez. Autrement dit, la nation d'Israël en exil est sur le point de mourir. Encore plus sévère que ça, ce sont des ossements desséchés. Donc le retour sur la terre d'Israël est une résurrection des morts. Pas au niveau individuel seulement, mais l'individu rencontre ce qu'on appelle le Klal Israël, l'entité Israël au niveau de l'âme de la nation tout entière. Ici, nous sommes obligés de faire une petite parenthèse. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu nous a créés pour qu'on soit religieux. Shomrei mitzvot. Alors, je risque de vous choquer, L'application des mitzvot est certes capitale, mais pas en tant qu'individu. Vous appliquez, nous appliquons toutes les mitzvot de la Torah, en tout cas on essaie de le faire, parce que nous sommes issus de la nation d'Israël. C'est elle qui a reçu les commandements. Et parce que je suis membre de ce corps cosmique global qui s'appelle Israël, je dois en réalité faire des actes qui correspondent à la nature de la nation à laquelle j'appartiens. Et si je fais les mitzvot individuellement parlant, sans prendre conscience de cette immensité, de la nation de laquelle je sors pour appliquer cette mitzvah, pour certains, notamment pour Abayé, dans la Guémara, il y a ici quelque chose qui est raté. Les mitzvot doivent avoir une kavana, et ça a été aussi apporté dans le Shulchan Aruch. Mitzvot, Tzrichot, Kavana. Alors qu'il y a une contradiction entre Avayé et Rabba. Rabba dit, à partir du moment où je fais une mitzvah, je la fais. Avayé dit non. Il faut que tu penses à la mitzvah que tu es en train d'appliquer pour qu'elle ait une véritable valeur. Et quelle est l'une des pensées nécessaires pour chaque mitzvah? Eh bien, qu'elle soit issue de mon appartenance à la nation d'Israël. Ce qui a poussé les kabbalistes à dire une phrase avant toute mitzvah. Je vais faire telle et telle mitzvah, Bechem Kol Israël. Au nom du Klal Israël, du tout Israël, je vais faire cette mitzvah au niveau individuel. Très important de comprendre cela. À quoi cela ressemble? À un corps humain dont le doigt fait un acte. Le doigt, vous comprenez bien qu'il ne fait pas un acte déconnecté du tout. C'est le tout qui dit à ce doigt de bouger. De là, nous disent les Chachamim, « En Adam nokef etzba'o lemata, atchou kibel mi lemala. » Un homme ne peut pas plier son doigt sans qu'il y ait en réalité une source, une pensée, une direction de pensée à ce geste. Mais c'est la même chose. Et je peux aller plus loin. Chaque cellule de mon corps doit normalement obéir aux règles de mon entité. Et chaque cellule de mon corps fait partie de cette entité, auquel cas, si elle veut sortir du groupe, ça devient un cancer. Chas v'chalila. Donc vous comprenez que la sortie d'un homme, d'une femme d'Israël de ce contexte complet équivaut à une maladie très grave. Et donc à une mort. C'est pourquoi l'éparpillement, l'exil est comparé à la mort, comme je vous l'ai cité tout à l'heure dans Ézéchiel. Et le retour vers cette prise de conscience du collectif Israël, c'est tout simplement la résurrection des morts. Donc, le livre va s'appeler Orot Atria et le fils, le Rav Tzvi Yehuda, va décider de commencer par éditer ce livre-là. Hame'irim bedivrehem erkei haruach. Tout ceci pour éclairer la génération des valeurs du souffle d'Israël qui est en train de revenir. Pourquoi le retour d'Israël équivaut à la résurrection des morts? Mais tout simplement parce que le Rambam, lorsqu'il parle du Mashiach, dans ses lois concernant les rois et leurs guerres, « Ilchot Melachim u'milchamotehem » ne considère la Géoula que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est une halakha. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un livre de pensée juive, c'est un livre de halakha. C'est-à-dire le sage, le grand Tegle, le Rambam, Maïmonide, a fixé dans la halakha que la Géoula, c'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui Kibbutz Galouyot, le retour des exilés, le rassemblement des Juifs du monde entier sur leur terre. En ben haolam hazeh, l'imot ha-mashiach, Ela shi'abud malkuyot bilvad. Et non seulement nous sommes sur notre terre, il faut que nous ayons une structure autonome, c'est-à-dire un État, une indépendance. Et lorsque nous sommes indépendants, eh bien, c'est le processus de Geoula qui commence. Nous ne sommes plus assujettis aux nations du monde. Donc tout ceci s'inscrit dans ce que nous connaissons aujourd'hui, Baruch HaShem. Nous sommes déjà profondément dans ce processus-là. Et donc, naturellement, nous nous reconnaissons dans cette résurrection et dans ce souffle nouveau, car le souffle, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme pour qu'il vive, comme nous l'avons vu dans la création du premier homme, Vaipach be'apav nishmat chayim ve'yehi ha'adam le'nefesh chaya, traduction ruach me'malela. Et là, vous avez le ruach, c'est-à-dire le souffle parlant. Le souffle de l'homme, c'est ce qui lui sert de parole. Nous ne parlons pas avec notre bouche exprime par des mouvements ce que ma pensée, ce que mon souffle lui dicte. On n'a jamais vu une bouche parler. C'est le souffle qui parle. Donc c'est une pensée parlant. Et c'est grâce à cette parole, qui est en réalité issue de la pensée de la nation, que lorsque quelqu'un ouvre sa bouche, il est déjà dans un processus de délivrance. Dans l'exil, nous étions avec la bouche fermée, comme en Égypte. C'est pour ça que la résurrection, le messianisme, j'allais dire, est toujours correspondant à l'ouverture de la bouche. Pesach, la bouche qui raconte. Dès que j'ouvre la bouche, ça veut dire que l'Esprit divin est en train de circuler en moi. Sinon, je suis bouché. Et celui qui n'arrive pas à ouvrir la bouche dans la Haggadah de Pesach, qui s'appelle Haggadah, c'est-à-dire celle qu'on dit, Magid, les Haggid, eh bien, at petachlo, il faut lui ouvrir la bouche parce que c'est la maladie. Ken, il a une maladie, c'est-à-dire sa diction est dans la négativité. Et donc tout le processus, c'est savoir ouvrir la bouche. Ptichat hapé. Et cette ouverture de bouche, ça veut dire d'une manière beaucoup plus large que le peuple d'Israël, seulement à partir du moment où il est sur sa terre, eh bien, sa parole va commencer à être entendu dans le monde entier. Nous n'avions pas de poids au sein des nations avant notre retour en terre d'Israël. Dès que le peuple revient sur sa terre, ses paroles ont du poids. Et on lui donne donc du poids, en hébreu, kavod, kaved. C'est la même chose. Donner du poids, c'est donner du kavod. Donc la nation d'Israël, revenue sur sa terre, a la bouche qui s'est ouverte et qui commence en réalité à raconter quoi ? L'infini. Béni soit-il, car c'est pour ça que nous avons été créés. Am zu yatsar tili, je me suis façonné une nation, un peuple, dit l'Éternel, dans Isaïe 43, pourquoi tehilati yesaperu ? Une seule chose, je veux qu'il raconte ce que je suis. Donc nous sommes les porte-paroles, la bouche de l'Éternel dans ce monde, au sein de l'humanité. Très, très important que vous compreniez ça. Il ne s'agit pas seulement de mitzvot et d'application des mitzvot au premier degré comme vous l'entendiez peut-être, mais tout simplement de montrer Dieu sur terre. Et Dieu sur terre, c'est Israël. Atem Edaï, dit le verset, Ve'ani El. C'est parce que vous êtes mes témoins que je suis Dieu. Si vous n'êtes pas mes témoins sur terre, je ne peux pas me dévoiler. J'ai fixé une règle, que ça passe par vous. C'est comme ça, c'est ma volonté. Vous vous taisez, c'est mon silence. Vous parlez, c'est moi qui parle. Vous agissez, c'est mes actions. Vous comprenez ? Donc lorsque vous voyez dans un verset de la Torah, je poserai un jour mes pieds sur le mont des Oliviers, Vous comprenez bien que Dieu n'a pas de pied ni de main. Eh bien, ce sera les soldats d'Israël qui, lorsqu'ils vont poser leurs jambes sur le mont des Oliviers à la guerre des six jours, on peut dire clairement que c'est Dieu qui a posé ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc, la prophétie s'est bel et bien réalisée. Qu'est-ce? Le rov du peuple d'Israël, j'ai eu la chance d'avoir comme élève l'un des ministres de la Knesset, qui est encore mon élève, je ne veux pas citer son nom, peut-être qu'il ne veut pas que je le dise, et donc avec les chiffres que nous avons reçus de la Knesset, nous sommes vraiment dans le passage, dans l'axe où la majorité du peuple juif va être sur sa terre normalement cette année Be'ezrat Hashem. Et le Rav Kook d'ailleurs dit que lorsque ce sera réalisé, il y aura une révolution de l'esprit dans notre terre, sur notre terre. Bien entendu, il suffit de voir tout ce qui se passe autour de nous et tout est en train de s'accélérer pour comprendre que nous sommes dans un processus qui nous pousse de l'intérieur, même sans que nous comprenions ce qu'il se passe. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'immense qui est en train de se passer, et Baruch HaShem, nous sommes les acteurs de cette histoire, et non plus les spectateurs que nous étions en exil. Donc, Ve'amaaseh, le souffle, c'est bien, mais il faut l'action. Car Akadosh Baruch Hu nous donne comme première leçon de la Torah, quoi ? L'action. Autrement dit, lorsqu'il crée le ciel et la terre, c'est qu'il est sorti, entre guillemets, de son infinité pour passer à l'acte. Donc, étant donné que la Torah est un enseignement, mon premier cours, mon premier enseignement, c'est que ma pensée doit être agissante. Et si ma pensée n'est pas agissante, on ne peut pas appeler cela chokhma. La chokhma dans la Torah, c'est la asiya. Et on le dit, kulam bechokhma asita. Si tu as une pensée qui ne passe pas par l'acte, ce n'est pas une pensée. Elle est morte avant d'être née. Donc ça ne s'appelle pas de la sagesse. On n'est pas des esprits qui pensent et qui montent. Même dans le songe de Yaakov, les anges montent et descendent. Si la Torah était un livre de philosophie, les anges seraient montés. Ou Malaché Elohim, Olim Veyordim. Bon, dans ce sens-là, c'est-à-dire que toute montée, ce qu'on appelle montée, n'est qu'en réalité qu'une descente. Qu'est-ce que ça veut dire une descente ? Une capacité à réaliser la chose. Sinon, tu n'es monté nulle part. Monter en Israël, c'est descendre dans la matière. Et les gens qui ne comprennent pas cela se disent, je vais perdre ma spiritualité. Je risque de perdre ma Torah. Tu n'as rien compris. Pour toi, la Torah, c'est de l'étude. La Torah, c'est du vécu. Vous êtes tous ici des talmidei chachamim et des tzadikim. Même si vous n'ouvrez pas un livre de Torah, parce que vous vivez sur cette terre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Ve'amech kulam tzadikim. Condition, le'olam irshu eretz, parce qu'ils habitent sur la terre d'Israël. Viendra le Rav Avraham Azoulay, le Chida, alav shalom, il dira que tous ceux qui habitent en terre d'Israël s'appellent des tzadikim, même si apparemment, quand tu les regardes, ce sont des réchaïm. Il dit, c'est pas possible que ce soit des réchaïm, parce que si c'était des réchaïm, étant donné que l'estomac de la terre d'Israël est très délicat, la terre les aurait vomis. Étant donné que la terre ne les vomit pas, ce sont des tzadikim. La preuve, ils sont là. Incroyable, mais vrai. Donc arrête de les appeler des réchaïm, ce sont des tzadikim, parce qu'ils habitent la terre d'Israël. Il n'y a pas marqué là-bas, parce qu'ils ont ouvert une yeshiva. La terre vomit ses habitants, ça veut dire que quelqu'un a l'impression qu'il a fait sa yérida, mais en réalité, ce n'est pas lui qui est parti. Je n'ai pas envie de faire mal, mais Il faut remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour où Akadosh Baruch Hu veut de nous encore sur cette terre. Quand quelqu'un prend la décision de repartir, en réalité ce n'est pas lui. Malheureusement. Alors, je sais que c'est un petit peu dur, mais c'est pour ça que nous sommes en train de toucher maintenant l'essence même du sionisme. Et on touche ici la graine, c'est-à-dire les deux... Je ne sais même pas quelle expression donner pour le Rav Kook et pour son fils, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, et son fils, le Rav Tzvi Yehuda, dont les maîtres avec lesquels je suis dû aujourd'hui sont les élèves directs du fils. Et donc, on a sur qui se reposer. Je ne suis pas en train de vous sortir des livrets Torah de la Manche, autodidacte, qui n'a jamais rien fait, pas du tout. On est en train de parler de quelque chose de concret, d'une Torah saine, je répète, saine, parce qu'elle respecte la nature. Elle n'est pas anti-nature. Donc il va y avoir ici une reconstruction de la maison d'Israël, quand on parle de la maison d'Israël, c'est-à-dire du peuple, et donc sa Shiva, son retour, son établissement, son assise sur Eretz Kodesh. Qu'est-ce que c'est Eretz Kodesh? Pas la terre sainte, mais la terre du saint. C'est différent. Vous n'habitez pas en terre sainte. Vous habitez dans la terre du saint béni soit-il. On ne dit pas Eretz HaKdosha, on dit Eretz HaKodesh. C'est la terre du saint. En hébreu, ce n'est pas une langue sainte, c'est la langue du saint béni soit-il. La Shon HaKodesh, et pas la Shon HaKdosha. Jérusalem n'est pas la ville sainte, mais la ville du saint béni soit-il. Ir HaKodesh. Donc faites attention à toutes ces traductions qui ont trahi en réalité l'essence même du judaïsme et oublié les Holy Land. Okay. Vous avez peut-être un petit peu chaud? On va arrêter un petit peu.
Pardon.
Quelqu'un? Non, non, il n'y a pas de pardon. Il y a...
Vous avez précisé que le fils a retardé l'apparition. En raison de ce que j'ai bien entendu de la première guerre.
C'est pas le fils qui a retardé, ça a été retardé à cause de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Mais en réalité, le livre, lui, était déjà prêt lors de la Première Guerre mondiale. On va le voir tout à l'heure. D'accord. Donc ça a été retardé en réalité. Yachadimze, Raïti Lenachon. Donc, j'ai pensé, l'Akdim Lifnei Hapratim Ha'ele, avant de commencer le livre, nous sommes que dans la préface, hein. Avant de commencer les chapitres que je veux déjà partager au monde, Shenichtevu Be'erech Shnataim Lifnei Milchama, qui ont été écrits, ces chapitres-là, à peu près 2 ans avant la guerre, Et Pirkei Orot Me'ofel. Et je veux déjà sortir au grand jour le livre qui va s'appeler Orot, que vous entendez, que vous connaissez par le terme de Orot, mais en réalité, le véritable nom c'est Orot Me'ofel. Ce sont les lumières qui sont sorties des ténèbres et du brouillard. Et d'ailleurs, le Rav Kook a payé cher à cause de cette vision optimiste au moment où il y avait tous ces événements dans le monde. Et les sages de son époque lui disaient « Comment est-ce que tu peux voir la lumière alors que le monde est en plein noir ? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Vous comprenez bien que le Rav Kook est dans la suite logique de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale, lui aussi, la Gemara nous raconte que lorsque la destruction du temple a eu lieu, lui et ses amis sont allés sur le mont du temple et ils ont vu des renards sortir du Saint des Saints. Tous les sages pleuraient et Rabbi Akiva riait. Et les sages lui disent, mais pourquoi tu ris? Et il leur demande, mais pourquoi vous pleurez? Ils disent, mais comment est-ce que tu peux rire avec ce qu'on voit? Il leur dit, parce que vous vous êtes arrêté à la première partie de la prophétie. Étant donné que vous avez aussi une deuxième partie, c'est lorsque vous allez voir ces renards sortir, c'est que, Bezrat Hashem, la deuxième partie, elle aussi, sera réalisée. Donc ça me rassure que la première partie est déjà réalisée. Conclusion, je suis un optimiste et rien ne peut me guérir. C'est ce que dit le Rav Kook et c'est ce que ceux qui étudient cette Torah voient dans tout le processus messianique qui va être difficile, car il est écrit dans le Zohar que ceux qui vont vivre à cette époque vont souffrir ou bien vont se réjouir. Comme ça dit le Zohar, en même temps, vont souffrir parce qu'ils ne connaîtront pas les secrets de ce livre, de pouvoir voir la lumière dans le noir, et vont se réjouir lorsqu'ils comprendront le processus. Et pour comprendre le processus, il faut l'étudier. Et c'est ce que ce livre de Oroth va nous permettre de faire. De comprendre notre identité, de comprendre notre terre, de comprendre notre nation, de comprendre ce que nous sommes venus faire sur terre. Et non pas seulement dans le premier niveau des choses, comme on pourrait le comprendre, Torah et Mitzvot. Bien entendu, c'est Torah et Mitzvot. Mais comment? Torah individuelle en exil ou Torah collective sur notre terre? Quelle?
On peut pas dire qu'il y a eu cette réaction négative sur les Oroth.
Ben tout simplement parce que quand il y a un processus de Géoula, aujourd'hui, combien de personnes sont capables de dire le Hallel à Yom HaAtzmaout? C'est la même chose.
Parce que déjà les chassidim depuis au moins 2 siècles disaient que le mal et les salons du bien, donc ils devaient être...
Mais vous avez la réponse dans ce que je viens de vous poser comme question.
Mais c'est ça, je comprends pas. Ils savaient déjà.
Non, mais je parle pas au passé, je parle au présent. Combien de personnes considèrent aujourd'hui Yom HaAtzmaout comme un jour de joie? Pourquoi vous allez aussi loin? C'est la même chose. Okay? Donc, il faut faire attention à tout ça. Elle beshloshet machlekotehem. Donc, nous allons ici traiter 3 sujets principaux. C'est-à-dire que, en réalité, le Rav va nous enseigner que tout ce que nous sommes en train de passer, que ce que nous allons passer, est lié à une compréhension profonde d'une évolution qu'Akadosh Baruch Hu fait par rapport aux événements que nous avons nous-mêmes portés sur nous-mêmes. Mais que tout ceci va vers la lumière. Donc il appelle sa Torah Oroth, alors que nous sommes réellement de facto dans le noir. Une petite clé. Dans le Zohar, il est écrit que le roi Mashiach, lorsqu'il va arriver, aura sa propre yeshiva. Et dans cette yeshiva, il y aura donc une entrée. Et à l'entrée, il y aura marqué, ne sont aptes à rentrer dans cette yeshiva que ceux qui remplissent les 3 conditions que je vais vous raconter maintenant. Première condition, savoir faire vivre un mort. Deuxième condition, le noir, la nuit, il faut être capable de le transformer en jour. Troisième condition, on vous met un plat amer et vous devez, par une application, la rendre douce. Rendre douce ce plat. Alors vous êtes en train de rigoler parce que vous dites on n'a aucune chance d'entrer dans cet échiva. Pas du tout. En réalité, le seul dénominateur commun à tout ce que je viens de dire, c'est l'optimisme. C'est ça en réalité. Ceux qui vont rentrer dans cette yeshiva, c'est ceux qui vont être capables de voir la lumière même pendant une période de noir. Ceux qui seront capables de voir des morts ressuscités comme la Alia sur la terre d'Israël. Et ceux qui seront capables de consommer tout ce qu'on consomme aujourd'hui qui peut nous paraître comme quelque chose de... une panique totale, une gestion incroyable de notre pays, et les râleurs ne manquent pas, et de dire, ça fait partie d'un grand processus divin. Si vous êtes capable de cela, vous avez votre place dans la yeshiva. Sinon, faites teshuva. La teshuva, c'est arrêter de râler. et de commencer à comprendre qu'on fait partie d'un grand processus divin et que c'est la simcha, écoutez bien, qui en est la clé. Comme il est dit, qui be simcha tetseu. Ceux qui n'ont pas la simcha ne pourront pas sortir. Or, ne pas sortir, c'est pas seulement ne pas sortir, c'est tout simplement ne pas être capable d'étudier. Parce que pour étudier, il faut sortir. Comme il est dit dans la Mishnah, c'est ulmad. Il n'y a pas marqué étudie. Si tu n'es pas capable de sortir de la première vision de ce que tu vois, tu ne seras jamais capable d'étudier. C'est vrai ? Trois sujets principaux. Eretz Israël, premier sujet. Donc on va commencer, Be'ezrat Hashem, Eretz Israël. Deuxième sujet, Hamilchama, la guerre. Troisième sujet, Israël ou Triato, le peuple d'Israël et sa résurrection. Voilà. Nous avons un programme extraordinaire, mais qui en réalité est complètement dans le processus de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Asher nichtevu bemeshech hashnatayim harishonot shel hamilchama. Tout ceci a été écrit pendant 2 ans, ces 3 chapitres-là. Inutile de vous dire que chaque mot chez le Rav Kook, c'est d'une précision incroyable. Ça fait peur. C'est-à-dire que lorsqu'il dit un mot, ce n'est pas l'autre. Pourquoi ? Ben tout simplement parce qu'il a un bon maître, Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu est très avare. Et dans la Torah, il n'y a pas un mot à la place d'un autre. Et si vous voulez un conseil, quand vous étudiez la Torah, la Gemara, la Mishnah, ce que vous voulez, ne répétez pas des choses à peu près. Dites ce qui a été écrit réellement. Parce que sans cela, vous ne comprenez pas en réalité le véritable sens de nos sages. Parce que chaque mot a été pesé et ce n'est pas un mot à la place d'un autre. Petit exemple, le don de la Torah, Gemara Shabbat 88, Israël, lorsqu'il a reçu la Torah, Dieu a posé la montagne sur eux comme une kafa alehem et har kegigit. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, vous allez vivre, sinon, vous allez mourir. Où ? Écrasé sous la montagne. Pas du tout, ce n'est pas écrit comme ça. Vous voyez ? Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Tout simplement parce que vous ne lisez pas le makor, la source. Il n'y a pas marqué que vous allez mourir maintenant, parce que je vais vous écraser la montagne dessus. Là-bas, il y a un mot. Mais si tu ne le connais pas, tu ne le dis pas, pourtant il est simple. Sham, terek vous raterez. Là-bas. Et les sages nous disent, c'est quoi là-bas ? Regardez, avec quelle résolution de lecture. Là-bas. C'est-à-dire, il n'y aurait même pas eu de matin de Torah. Là-bas, c'est au début de la création du monde. J'aurais déjà tout étouffé avant que tout commence. J'aurais rebobiné le film, dit Akadosh Baruch Hu. Bien, Moraï de Rabotaï, ça vous change complètement la leçon de Torah. C'est plus une montagne avec un type nerveux, un roi nerveux, un dieu nerveux qui veut écraser ceux qui ne veulent pas recevoir ce qu'il leur dit. Arrêtez de faire passer Akadosh Baruch Hu pour un patron de Makolet énervé. Vous le réduisez de son infinité. Donc il faut étudier dans les règles de l'art. Et Baruch Hashem, je vous ai dit tout à l'heure, mes maîtres m'ont habitué à la précision. Que ce soit en hébreu, et quand j'essaie de traduire en français, qui est en réalité une maladie, mais je le fais parce que nous sommes encore un petit peu malades de 2000 ans d'exil. Mais la précision est de rigueur. Et au niveau des horaires, au Machon Meir à la Yeshiva, à midi, j'ai un cours, à midi, je ferme la porte. Donc il y a les poignées de porte qui peuvent bouger à midi 5 secondes, c'est fini, c'est fermé. Il y a une précision. Parce que un cours en français, vous n'entendez pas la connotation de mesure. En hébreu, shiur. Shiur est une mesure. Si tu ne sais pas respecter les mesures dans ce monde, eh bien, quand je te demande un verre d'eau, tu me donnes une bouteille. Quand je te demande une bouteille, tu me donnes un... Ça marche pas. Shiurim, c'est la règle de notre monde. C'est savoir les mesures de chaque chose. Si tu es démesuré, tu es déjà malade. Et cette mesure, elle doit s'acquérir dans tous les domaines. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de l'être que je suis. Donc je dois être mesuré dans mon être, mesuré dans l'endroit où je vis, c'est-à-dire savoir quelle terre correspond à ma nature profonde d'homme et de femme d'Israël. Et donc il est impossible de vivre ailleurs qu'ici. Et au niveau du temps, savoir respecter le temps émis par l'infini béni soit-il, le Shabbat et les fêtes. C'est tellement précis. Shabbat entre à 4h12. Il sort à 5h27. C'est quoi ça? Mais c'est comme ça. À Kadosh Baruch Hu, c'est la précision. S'il n'y a pas de précision, le monde éclate. Asher nichtevu b'meshech ha-shnatayim ha-rishonot shel ha-milchama she-shaha maran haba ha-rav shlita b'shvetzaria.
S'il n'y a pas de précision, le monde éclate.
D'accord.
Représente un demi-millième de la population mondiale.
D'accord.
Il y a donc 999 millions de Chinois. La très grande majorité qui respecte pas ça. Okay. Et le monde qui ne respecte pas pour autant.
D'accord. Parce que vous avez confondu deux choses. La qualité et la quantité. Je ne parle pas de quantité maintenant. Je parle de qualité. Vous connaissez très bien la règle. Me'at or doche harbe chosher. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de parler de quantité. Si dans ma vie, j'ai trouvé un point de qualité, eh bien, il gère tout le reste. C'est plus la quantité qui compte. Donc, il faut faire attention. Le peuple d'Israël, effectivement, Atem Hamerat Mikol Ha'amim, vous êtes le moins nombreux des peuples, mais parce que j'ai choisi. Ici, il y a une guerre. Il y a une guerre. Ça fait partie, d'ailleurs, de la guerre de Gog ou Magog. C'est la qualité contre la quantité. Et aujourd'hui, nous devons avoir peu, mais de qualité. D'ailleurs, je dis à tous mes élèves, avec toute humilité, priez peu, mais soyez dans ce que vous dites. Pas la peine de prendre des bouquins tout entiers, de s'affoler avant Kippour, comment est-ce que je vais terminer tout ça. Focalise-toi sur 3, 4, 5 lignes pendant cette journée-là. La synagogue, ça continue, il prie. Mais toi, si tu es juste un perroquet qui répète des mots, ça ne va pas. Sois dans la qualité, sois dans ce que tu dis. Ne mets plus des tefillines. Sois toi-même les tefillines que tu es en train de mettre. Devenez la mitzvah. Ça, c'est une qualité. Ne mangez plus des repas de Shabbat. Mangez le Shabbat. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter?
Non, c'est très difficile. Je vous ai déjà entendu dire ça. C'est...
D'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut intérioriser, les notions que vous êtes en train de vivre. D'ailleurs, en hébreu, encore une fois, précision, il n'y a pas marqué « Seouda Shel Shabbat », il y a marqué « Seouda Shabbat ». C'est-à-dire, c'est le Shabbat que je mange. Alors, il a la forme de boulette et du couscous. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? C'est ça, c'est intégré. Là, vous êtes en train d'écouter un cours, deux possibilités. Ou vous l'écoutez juste pour enregistrer un cours sympathique, ou vous l'écoutez parce que vous allez l'enseigner. Et là, je vous garantis que votre niveau d'écoute est complètement différent. Parce que vous écoutez pour transmettre, ça change complètement. C'est d'ailleurs une consommation, ce qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, où est-ce qu'était papa, avant la question, Be-Shvetsaria. Ensuite, okay? En Shvetsaria, ok? Chef à Kodesh à Kodashim, chez Sefer à Orotazé. Regardez comment il l'appelle. Le fils dit que ce livre-là est tellement plein de quoi? De Kodesh à Kodashim. Du Saint des Saints. Encore une nouvelle notion, que nous devons développer. Qu'est-ce que c'est Kodesh HaKodashim d'après vous? Hein? Le Beth Mikdash, le Saint des Saints, quand on rentre là-bas. Alors j'ai une nouvelle pour vous, le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint le plus haut dans le degré le plus bas. Par exemple, dans votre maison, la chambre à coucher, c'est le Kodesh HaKodashim. Le saviez-vous? Bien tout simplement parce que nous sommes influencés par une mentalité européenne de 2000 ans où les éléments de la chair, c'est à bannir, alors que dans le peuple d'Israël, on te dit au contraire, dans cet acte-là, il y a le degré le plus élevé. Mais il faut que tu saches faire le lien des deux. Donc ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Ce n'est pas par hasard que dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? Deux anges qui s'accouplaient. Bizarre. Et donc appelle le Rav Kodesh HaKodashim, qui veut dire que quoi? Il est en train d'introduire, en fait, le livre. De quoi va traiter le livre? D'un sujet extrêmement important dans le judaïsme qui s'appelle, et ça c'est une clé du Rav Kook, Hakdusha Shebateva. La sainteté habillée dans la nature. Celle que tu as négligée jusqu'à maintenant parce que tu es devenu trop religieux. Et pour toi, la matière, le corps, c'est à dédaigner parce que nous, nous voulons quoi? Le Olam Abba, l'après-vie. Okay? Comme s'il fallait se suicider, un suicide collectif, pour retrouver le Olam Abba. Lo hametim yehalleluya, velo kol yorde duma. La Torah n'est pas faite pour les morts, elle est faite pour les vivants. Et c'est dans ce monde-là, de la matière, que nous devons réaliser la volonté divine. Ce n'est pas par hasard que lui-même, béni soit-il, a créé la matière. Il aurait pu rester dans son esprit infini. Et il crée la matière parce que le but, c'est de descendre dans la matière et de réaliser l'infini dans le monde matériel. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Mais tout simplement que une véritable étude de Torah, ça doit aboutir à quoi? À un changement de vie. C'est pas juste de l'information, c'est que je sors d'un cours et je vis le cours, je me transforme. La Torah a des mains, a des pieds, a des doigts. Elle rentre, elle pénètre mon corps et elle change complètement ma structure intérieure et extérieure. Ça, c'est une véritable étude de Torah. Comme un repas. Vetoratra betoch me'ay acheyemale kreiso. Comme ça, c'est marqué. Comme si tu remplissais ton ventre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ventre va se remplir de nourriture qui, elle, va se transformer en sang, qui va circuler, qui va faire vivre, et tu vas devenir en réalité ce que tu as mangé. Bien, c'est la même chose, la Torah fait vivre son propriétaire, et donc elle doit le transformer. Et donc cette Torah, elle a quelque chose d'énorme. Et si on a la chance, le bonheur, et l'humilité d'arriver à constituer un groupe important et régulier, vous allez voir, naturellement, de facto, que vous allez changer. Votre approche de la vie va changer complètement. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est quelque chose de bénéfique, pas seulement pour vous. Grâce à ça, les plantes sont plus vertes. Voilà la Torah de la nature. Grâce à ça, les chats et les chiens se sentent mieux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Et oui, on en a à faire. Les animaux vont mieux vivre. Les nations du monde vont se guérir, vont guérir de leurs maux, M-A-U-X. Israël va guérir de tous ses malheurs. Les malades dans les hôpitaux vont se sentir mieux. Les gens qui sont angoissés, dépressifs, vont sortir de leur dépression. Tout ça, ça fait la Torah? Oui, une véritable étude de Torah, ça sert à ça. Et d'ailleurs aujourd'hui, les jeunes qui ne veulent pas, entre guillemets, tomber dans la religion, et ils ont raison, quand tu leur demandes tu as mis les tefillines ce matin, la réponse que tu vas entendre, c'est est-ce que ça sert à faire la paix dans le monde? Et la réponse doit être oui, parce que sinon il a raison. Ça ne sert à rien de mettre les tefillines. Ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte qui va relier mon être à l'infini pour justement bonifier la vie. Vous comprenez comment ça marche? Ça, c'est une véritable Torah. Alors, avec toute humilité, parce que ça nécessite de l'humilité, parce que tout vient de lui, nous vivons de son être, nous ne sommes que les conducteurs et on doit mériter de l'être Be'ezrat Hashem. Donc avant d'arriver dans ce cours, je prie, comme avant d'arriver à n'importe quel cours. Et je demande à Kadosh Baruch Hu d'être son porte-parole, son conduit, son canal, pour ne pas que j'invente des choses de moi-même. Pour que cette Torah devienne objective et non pas subjective. Vous avez des questions? Ok. Alors, Shef HaKodesh HaKodashim Shel Sefer HaOrot HaZeh Orot Me'ofel Eret Yisrael HaMilchama Yisrael HaTriyato Orot HaTriya. Tous ces sujets Shofia Mitoch Pachei Taharato Shel HaKohen HaGadol. Regardez comment il considère son papa comme le grand prêtre parce qu'il était Kohen. Et Pach, ça vous rappelle Hanouka. Qu'est-ce qu'on a trouvé à Hanouka? Une fiole dans laquelle il y avait toute la pureté qui a été observée, gardée, initiale, sans être souillée. Eh bien, dit son fils, papa a sorti, j'ai retrouvé la Torah qu'il a écrite durant sa vie. Il faut savoir que le Rav Kook écrivait énormément. À tel point que si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem dans la maison du Rav Kook, quand il posait une feuille de papier et qu'il écrivait, il était tellement dans son écriture qu'il arrivait au bout de la feuille, il sortait, il continuait sur la table. C'est-à-dire qu'il faut poser la feuille à côté de la table pour lire une phrase. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc ça s'appelle cette fiole d'huile Avi Mori Verabi, mon père, mon maître, mon rav, à Rav Zatzal, que Dieu lui donne une vie éternelle, Bishnat 5681, c'est-à-dire 1921. Donc vous voyez qu'on est déjà, on n'est pas encore dans la deuxième guerre mondiale. On est dans la première et c'est là-bas où le père a écrit. Seulement ça a traîné. Im reshit bo'o bidvar Hashem lechazarat shchinato vekonenut malchuto Yerushalayma. Le Rav Kook est monté en Eretz Israël. Il a entendu la voix qui lui disait, comme chacun de vous l'a entendu, Lech Lecha. Et il est arrivé en Eretz Israël, quel jour? Yom Yerushalayim. Qui n'existait pas encore, hein, mais la même date. Bien des années avant. Et donc, Konenut Malchuto, pourquoi il est monté en Eretz Israël? Pourquoi cette voix, alors qu'il venait d'une yeshiva qui n'était pas réellement sioniste, d'accord? Eh bien, il a entendu la voix que le moment est arrivé pour établir le royaume de Dieu sur terre. Autrement dit, royaume, roi, Mashiach. Donc c'est un temps messianique, donc le Rav a été envoyé pour ériger la royauté de Dieu à Jérusalem. Et donc toute sa Torah aujourd'hui, vous savez que la Torah d'un maître ne commence à être réellement étudiée que 40 ans après sa mort. Et comprise 40 ans plus tard encore. C'est un chiffre clé qui est en réalité une formation comme un fœtus dans le ventre de la mère. C'est seulement à partir du 40 plus 1 que la maman devient maman même si elle n'est pas encore accouchée. D'ailleurs, M, maman, c'est 41. C'est pour ça que le mikvé dans lequel on se trempe, il a 40 CA. C'est une mesure. Il fallait passer 40 ans dans le désert pour passer de l'état Égypte à l'état Eretz Israël. Il fallait 40 jours pour que la Torah céleste descende sur terre. Donc Moshe est resté 40 jours. Et encore, je peux vous citer des 40. Donc c'est un chiffre clé. parce qu'il correspond en fait aux quatre lettres du nom d'Hachem, du tétragramme, 40 jours du déluge, et ainsi de suite. Mais ça c'est déjà de la Kabbalah. Il faut comprendre que tout ce qu'a écrit le Rav Kook est tiré du Zohar et des écrits du Harizal. D'accord ? Il le dit dans pas mal d'endroits, et vous allez voir tout de suite, dès qu'on va commencer le livre, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, mais on est déjà dans l'approche, c'est très important de savoir vers quoi nous allons. Il dit que le poids de la délivrance va venir par la droite de Dieu. C'est-à-dire que c'est la main droite divine qui va pousser en fait le processus. Quand on dit droite et gauche dans le langage kabbalistique, la droite c'est la bonté, c'est le partage, c'est le don. La gauche c'est retenir. Les deux sont importants, et donc c'est la main droite maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de freinage pendant 2000 ans d'exil, il est arrivé le temps où Akadosh Baruch Hu maintenant pousse par un grand mouvement de chesed le processus de la délivrance. Geoulat Amo, donc ça va délivrer le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est Geoulat dans le langage de la Torah ? Rabotai, je veux que vous compreniez que toutes les définitions, elles sont précises dans la Torah. Qu'est-ce que c'est Geoula ? Une délivrance, ça c'est dans votre esprit religieux. Pas du tout. C'est retour au propriétaire initial, c'est tout. Par exemple, j'ai vendu une terre, maintenant cette terre a besoin de Geoula, à partir d'un certain moment, elle revient à moi-même parce que je suis le propriétaire initial. C'est tout. C'est ça, Geoula. Vous n'avez aucune connotation religieuse dans le mot Geoula. Ce n'est que politique. Incroyable, mais vrai. Allez, regardez dans toute la Torah. C'est pour ça que traduction égale beaucoup de fois trahison. Vous savez que demain, c'est le 10 Tevet, ce soir déjà. Les Chachamim nous disent que la Torah a été traduite de l'hébreu en grec. Il y a eu 3 jours de ténèbres dans le monde. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on a enlevé l'âme. Quand vous traduisez, vous êtes dans le superficiel. On ne peut pas traduire la Torah. Vous croyez tous que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça veut dire qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça me fait rire. C'est terrible, cette traduction. Elle est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce qu'on a étudié, on a rien compris ? C'est pas grave. On recommence. On recommence, c'est une rééducation. Pendant 2000 ans, notre esprit prophétique a été sclérosé. Il faut le rééduquer. C'est une rééducation. Nos muscles de prophétie ont été atrophiés. Nous sommes obligés maintenant de revenir à notre source, tout doucement. C'est une guérison. Et donc vous êtes dans le plus grand hôpital du judaïsme. Ça s'appelle Eretz Israël. C'est là où on guérit. C'est pour ça que tous les fous et tous les malades sont là. C'est pas rigolo, mais c'est en réalité, c'est ça. Alors vous dites, mais ils sont malades, ils sont tous malades dans ce pays. Bien sûr, ils sont en train de guérir. Ceux qui sont à l'extérieur sont malades, mais ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils meurent tranquillement. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à sortir de ma terre, même pour une journée. Un voyage à l'aéroport, je suis déjà malade, à vomir. Je suis encore parmi ces vieillards qui, lorsqu'ils reviennent en Eretz Israël, se mettent par terre et embrassent le parterre, le sol. Okay. Les gens vont, voyagent, à droite, à gauche. Je deviens fou. Ça me rend fou, mais c'est que moi. Hein. J'ai un truc avec ça. Une fritasse qu'on appelle. J'ai été rayé. Veyeshuat Meshicho. Et c'est ça en réalité, le Mashiach. Mashiach qui ne veut pas dire le Messie ou je ne sais pas quoi encore. C'est tout simplement un acte chez un coiffeur, quelqu'un qui lui a mis de l'huile sur la tête. C'est ça la traduction du mot Mashiach. Mishra. vous achetez à la pharmacie des pommades, eh bien, Mishra, Shemen à Mishra, on lui verse sur la tête, tout simplement, il est loin. Donc c'est ça la traduction du mot Mashiach. La dernière fois, j'étais au Kotel, je vois plein de monde, on me dit Messi, Messi, Messi. En fait, c'était Messi. Lionel Messi. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal. Leumat ha-tzorech ha-mamashi be'itchatshut hotza'ato shel ha-sefer achrei asher ze kama azal. J'ai déjà sorti une petite quantité, mais elle a été avalée par tous les élèves de la yeshiva, dit le Rav. Ve'rapta ha-drisha le'asigo. Et maintenant, il y a une demande qui croit. Makbil u'mechuvan u'achiyuv ha-miyuchad ba'azrachan e'edara zo. Et je vous dis, c'est une nécessité et une obligation d'éclairer le monde par cette lumière de ce livre. Alpne marechet ha'eitanim shel komemut Yerushalayim lememshelet Israël. Parce que nous sommes en train de nous installer et d'avoir une puissance et une stabilité. Le mot eitan veut dire puissant. De la komemiut, parce que nous sommes en train de relever la tête à Jérusalem par le gouvernement israélien, c'est-à-dire souveraineté. Il n'y a aucune mitzvah de venir habiter en terre d'Israël s'il n'y a pas de gouvernement. Que vous le compreniez.
À l'époque,
il y a fait. Ça veut dire qu'il n'était pas encore en train de respecter Yishuv Eretz Israël. Bien fait. C'est-à-dire que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est lorsqu'il y a souveraineté. Ce qui veut dire que si j'ouvre la Gemara, par exemple, et que je suis dans le territoire de la terre d'Israël, territoire biblique, comme la Torah nous le dit, mais je suis dans une ville où il y a un autre roi qu'un roi juif, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'ai quitté la terre d'Israël. David Ameler, qui était à Jérusalem, est sorti de Jérusalem, il est allé à Kiryat Gat. Kiryat Gat. Kiryat Gat, ça fait partie du territoire. Seulement à l'époque de David Ameler, il y avait un roi qui s'appelait le roi de Gat. Le roi de Kiryat Gat, qui n'était pas Israël. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler dans la Gemara? Ce jour, aujourd'hui, il le marque dans son Yoman, j'ai fait de la Avodah Zara. Tu as fait de la Avodah Zara? Il dit oui, parce que j'ai quitté Israël. Sortir d'Israël. Il est sorti d'Israël. Dans un endroit où il y avait un autre représentant, alors qu'il est dans le territoire d'Eretz Israël, mais qui n'est pas souveraineté juive, il est sorti, il dit aujourd'hui, on m'a rejeté de ma terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais istaper benachalat Hashem ve'emor lilech avod Elohim acherim. On m'a dit d'aller servir d'autres dieux. Chas v'chalila. David Amelech écrit de lui-même qu'il a fait de la avodah zara dans sa vie parce qu'il a quitté la terre d'Israël un jour où il est allé à Kiryat Gat. D'accord? Il y avait des récupérés, il fallait récupérer, il y avait toute une guerre avec les Philistins et il y avait le Aaron qui était en retour. Qu'est-ce que c'est? Chamouda. Il est écrit dans le livre de Yeheskel. Tu comprends le français, n'importe, même si je te refais en français. Sinon, je te réponds en hébreu. En français. Il est écrit dans le livre de Yeheskel au chapitre 36. Après nos fautes, nous sommes sortis de notre terre. Et nous sommes arrivés chez les nations du monde. C'est Israël qui parle. Et qu'est-ce qu'on a fait immédiatement quand on est arrivé chez les nations du monde? De la Avodah Zara. Comme ça c'est écrit dans le texte. Si vous avez un Tanakh, je vous le lis mot à mot. Il y a un Tanakh ici? Vous savez que c'est le livre le plus rare dans les Yeshivot. Un petit, le petit Tanakh. L'Orachou, je vous dis, si vous me faites confiance, vous pouvez le voir chez vous après. Pourquoi on a fait de la Avodah Zara? Avodah Zara. Elohim Acherim. Comme si on était allé servir d'autres dieux. Pourquoi? Parce que Be'emor Lahem, parce que les nations qui habitent là-bas, quand ils voient un enfant d'Israël, ils disent Am Hashem Elle. Tu sais, ça c'est le peuple de Dieu. Ume Arzo Yatsa'u. Et ils sont sortis de sa terre. Vechilaltem et Shmi. Et vous avez profané mon nom juste parce qu'un goy vous dit, regarde ce mec-là, qu'est-ce qu'il fout ici? Son Dieu est un menteur, parce qu'il aurait dû être sur sa terre, et il est chez moi. Yecheskel, Rabotai, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est pas un homme, un prophète, c'est la parole divine. Alors ça me fait bien rire, quel? Sans rentrer dans les détails. Amitdagevet veola le gilulatenu pedut nafshenu. Et tout ceci pour notre geoula et notre délivrance au niveau de notre âme, parce que nous étions en réalité étouffés par une mentalité qui n'est pas la nôtre. Kekudat bal haorot, et comme le maître des lumières, regardez comment il appelle son père. Le maître des lumières, c'est celui qui a les clés des lumières. Zatzal, que Dieu repose son âme. Be'acharich notav, à la fin de sa vie. Badakti ve'aimati al matkuntam et psukei amikraot ou ma'amarot razal. J'ai mis tout en ordre avec les références de papa pour sortir ce livre. Asher mikodem be'otar ishona kefi shetef ha'yetzira ha'mekori yesh shelo ayu meduyakim ke'avayatam bimkomam. Parce que la première édition n'était pas réellement précise. Il y avait des choses qui étaient à peu près, et donc j'ai fait des corrections pour que les mekoros, que les sources soient claires et nettes. Gam tirafti besof ha-sefer, j'ai rajouté à la fin du livre aussi, Reshimat mar'e mekomot shel ha-psukim v'ha-ma'amarim. D'où est-ce que papa a pris toutes ces références dans la Torah, dans le Tanakh d'une manière, et dans les livres de Kodesh, bien entendu, la Gemara, et la Kabbalah. Rubam le lishonotem ke moshem vechelek mehem le kivun inyanehem vehemshechem. Toute chose par rapport au contexte, sans rajouter, sans omettre quelque chose. Le fi arato anechona shel gifi yakiri arav rab Avraham Yehoshua Hutner, mon gif, comment on dit gif, mon beau-frère, le rav Hutner Shlita, m'a aidé aussi à cher Yadav Rav lo uzchuto gdola bechol mifal otsat kikve kotcho shel Adoni Abi Mori verabi Harav Zatzal. Il m'a aidé pour sortir ce livre-là. Osafti bazeh et la maalach haideot beYisrael. J'ai rajouté encore un passage que nous allons Be'ezrat Hashem, avec votre décision, commencer la semaine prochaine, son étude réelle, qui s'appelle les maalach haideot beYisrael. Shacharit Pirsumo Rishon, Bashavuon Ivri, c'est sorti à un moment donné dans un journal en Eretz Israël, à Yafo, al yedei Rav Meir Bar Ilan, Bishnat Tarav, Mitpas Beigrot Reiya, peu importe, il y a des journaux qui commençaient déjà à éditer des passages du Rav Kook. Vegam et Orot Israël, Shiasa Levado Bishnat Tashag, Vodo Safti Bentaim, Zironim, le Rav a rajouté aussi Zironim, c'est-à-dire toute une structure de nourriture qui va être basée sur le végétalien. Donc, ce que le Rav, déjà à son époque, voyait comme une prophétie, et ça, le monde devait avancer vers cela. Tout ceci, regardez, Shaya la base du Pirsad Milchama, Bishnat 1914. Lechol elegamken shne tikunim, le psuke ma'amaram, donc j'ai fait tout un travail, mimkom mizera or agadol, et umat chachou bitsur Israël begoalo. Tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais sortir, ce sont les paroles de mon Père, mais ce sont les paroles de Tsur Israël Vegoalo, du rocher d'Israël et son libérateur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même. Melech Olamim, le roi de tous les mondes, Hatzadik Bekol Adorot, Akadosh Baruch Hu s'appelle Tzadik, lui aussi, avant nous, qui est le Tzadik de toutes les générations, Al Sion Virushalayim Vikra Ehem. Et tout ceci concernant mon sujet principal, dit le Rav, Sion et Yerushalayim. Dans la Kabbalah, ce sont deux niveaux, que nous rappelons d'ailleurs dans la Tikva, Eretz Sion Yerushalayim, c'est pas deux fois la même chose. Sion, c'est un degré secret qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé, et Yerushalayim, c'est le dévoilement. Donc Sion et Yerushalayim, ce sont deux sphères dans la Kabbalah, le Yesod et la Malchut, et tout ceci va être développé par le Rav. Bien entendu, cela s'habille dans Mashiach ben Yosef et dans Mashiach ben David. Al Sion v'Yerushalayim k'raem, mitzvat Torato, inaseh v'irai b'kol tov k'nitro, v'osi parto, le'enei kol afsei aretz v'tevel v'yoshevai. Je sais que ce livre-là arrivera à la fin aux gens les plus simples. Et Baruch Hashem, voilà, c'est arrivé chez moi. Donc, on est en train d'étudier. On va commencer, pour ne pas rester dans le vide, juste amorcer. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai rencontré ce livre, ou que ce livre m'a rencontré, j'étais dans une yeshiva anti-sioniste. D'accord ? J'ai étudié dans une yeshiva anti-sioniste en France. Anti-sioniste. Okay ? Avant de comprendre ce qui se passait. Et un de mes amis, qui était déjà en Israël, est revenu en vacances à Nice et m'a offert ce livre. Et quand j'ai ouvert ce livre, j'ai pris chaud. J'ai pris un coup de chaud. Je me suis dit, mais voilà ce qui me manquait dans ma vie. Je me sentais mal dans l'étude. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, attends, mais l'étude de la Torah est censée me rendre heureux. Je suis en train de m'étouffer, de me scléroser, de devenir éteint, de m'éteindre. Quand j'ai commencé à voir ça, les lumières. Et je me suis dit, voilà, ça y est. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon maître. Et Baruch Hashem, depuis cette époque-là, je continue. Et quand je suis arrivé en Eretz Israël, je suis israélien de naissance, mais j'ai quitté Israël à l'âge de 14 ans et demi. Je suis né en Israël à Be'er Sheva. Quand je suis parti en France, j'avais 14 ans et demi. Je suis revenu de la France. En revenant de la France, je suis rentré dans la yeshiva du Rav Kook à Jérusalem. Et au premier cours, je suis sorti, c'était un soir, je suis resté une demi-heure dans ma voiture, il pleuvait dehors et il pleuvait dedans. Je pleurais pendant une demi-heure, non-stop, et je me suis dit à Kadosh Baruch Hu, où est-ce que j'étais jusqu'à maintenant, c'est cette Torah que je veux. Et Baruch Hashem, non seulement à Kadosh Baruch Hu m'a ouvert les portes de cette Torah, mais je suis enseignant dans cette même yeshiva, depuis aujourd'hui presque 20 ans. Donc Baruch Hashem, je vous propose, avec beaucoup de simplicité, de commencer à voir. Alors, on va toucher. Regardez, le Rav attaque très fort. Orot me ofel. Ça fait ça au début. C'est dur à... Après, ça ouvre. C'est toujours ça au début. Alors, Oroth me Ophel, amen. Les lumières des ténèbres, on commence juste pour amorcer, parce que c'est très très important de mettre le pied à l'étrier. Eretz Israël. La terre d'Israël, d'abord ce n'est pas seulement la traduction Eretz Israël, la terre d'Israël. Eretz, ça vient du mot rotse. Ratson, c'est-à-dire la volonté. Donc en réalité, Eretz Israël, c'est le désir, c'est une terre qui s'appelle désir. Donc c'est une terre qui désire quoi? Les sages nous disent, le ciel. C'est marrant parce que j'ai donné ce cours, et un Rav de Paris m'a envoyé un WhatsApp il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise en disant que Eretz voulait dire Ratson? Il était 9h du matin ici, je lui ai bombardé de références. J'ai plus jamais entendu parler. En 5 secondes, je lui ai répondu, comment tu oses dire une chose pareille? Je t'envoie là, les midrashim, les machins, les gmarot, j'ai plus entendu. Eretz Israël, Einena davar chitoni. Rabotai, vous ne vivez pas sur une terre superficielle. C'est pas encore un morceau de terre. Vous étiez un jour là-bas, vous avez fait un déplacement géographique, vous êtes venu ici. Non. Il n'y a pas d'extériorité. Attention, hein. C'est même l'extériorité de cette terre, est encore dans l'infériorité des mondes. Je ne vais pas avancer trop loin. Kinyan Chitsoni Lauma. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël a formé un grand club et il s'est dit, bien, on a un endroit où tout le monde va se rassembler, on va acheter des terres et on va s'établir ici. Pas du tout. Rak Betor Emsaï Le Matara. Il dit que ce n'est pas seulement un moyen pour vivre sans judaïsme, pour manger kasher, pour être tranquille. C'est pas ça. Le Rav Kook est en train de nous dire que la terre d'Israël n'est pas seulement un moyen. Si ce n'est pas un moyen, c'est un but. Waouh. Waouh. Ça veut dire que, et les sages nous disent, Ha, Aret, quand il est écrit Ha, Aret, la terre, c'est la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé ? Bereshit bara Elohim et Asamaï ve'et Ha. Arrête. Et de là tirent nos sages que la première terre créée, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que c'est la première traduction de la pensée divine en matière. Waouh ! Quand l'esprit est devenu matière, c'était la terre d'Israël. Et donc si c'est l'axe...
C'est pas Shamaïm alors ? C'est pas Shamaïm
avant ? Alors justement, très bonne question, vous avez déjà fait de la Gemara, je suppose, et c'est pour ça que vous posez cette question. Il y a une discussion dans la Gemara qui a été créée en premier, le ciel ou la terre, parce que nous avons deux versets contradictoires apparemment. Le premier que je viens de citer, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, et à la fin de la création, Beyom Asot Hashem Elohim Eretz veShamayim. Hein? Nachon. Yafé. Alors, il y a toute une discussion, mais en réalité, selon l'axe de vision, eh bien, vous avez la terre en premier ou le ciel en premier. Ce qui ne veut pas dire le ciel et la terre seulement, mais l'idée et la réalisation de l'idée. Attention, c'est en train d'englober plein de choses. Qui vient en premier? Avec quoi tu peux gagner ta vie? Quand tu fais quelque chose ou quand tu penses d'abord la chose avant de la faire? Alors, en Europe, on a l'habitude de nous dire que je pense, donc je suis. Dans la Torah, on te dit, je suis. Après, tu peux commencer à penser. Parce que si tu n'es pas, il n'y a personne pour penser. Donc tu dois d'abord être. Et je suis de qui? De qui je suis? De son être. Il s'appelle être. Havaya. Lihyot. Donc je vis de son être. Mais ça, c'est déjà un petit peu plus tard. Juste, je ferme le premier paragraphe, et on va recommencer bien entendu. Donc ce n'est pas un moyen, les mataras, pour un but de se rassembler, hit akdou, taklalit, où tout le monde va être dans un même endroit, vers zakat kiouma, chomri, pour avoir de la matière, gagner de l'argent, ouvrir des magasins, avoir des maisons, pas seulement oafil ou rouhani, et même pas non plus au niveau du spirituel. C'est mieux d'habiter ici, parce que je peux étudier tranquillement, et. Tout ça, dit le Rav Kook, c'est pas ça la terre d'Israël. Qu'est-ce que c'est? Prochain numéro. Au Baraba.